Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition dont joue la prolongation. On avait fait une petite pause, fenêtre internationale oblige. On est de retour, ravi d'être de retour à l'antenne. Et on va parler football. On a eu un beau week-end de foot en Belgique et en Europe en général. On va avoir une belle semaine européenne également, puisqu'on va jouer la cinquième journée des phases de groupe des diverses Coupes d'Europe. Et pour parler de tout cela et de bien plus encore, à mes côtés, il va nous apporter son sens de l'analyse de ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Salut Sam, heureux de vous retrouver évidemment. Trêve internationale oblige, maintenant on reprend la dernière ligne droite du championnat.
Voilà, avant la trêve. À ses côtés, et à mes côtés également, j'aime bien cette idée. Il a manqué depuis son dernier passage, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, un homme au regard acéré sur le monde du football, un homme qui connaît les rouages des clubs de football, et un homme dont les résultats parlent pour lui, puisqu'il est l'ancien entraîneur de la section féminine de l'Union Saint-Gilloise, invaincu durant ses deux saisons à la tête du club. Il s'agit bien sûr de Thomas Otuszewski. Salut Thomas, comment vas-tu?
Salut, ça va? Stressé avant une semaine décisive en Ligue des Champions.
Exactement.
Pour notre club.
Voilà. Je sais qu'il n'aurait pas compris. Voilà. Au programme ce soir, on va bien sûr parler de la 15e journée de Jupiler Pro League qui s'est déroulée ce week-end. On parlera également Coupe d'Europe, puisque dès demain, on entame donc l'avant-dernière journée des phases de poule dans les diverses Coupes d'Europe. Demain, c'est la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain notamment. Et puis, si on a le temps, on fera un petit point sur la fenêtre internationale qui vient de s'achever et sur les enseignements qu'on peut en tirer. Et bien sûr, avec Alex, on parlera marketing sportif au cours de la Minute Sportimize. Tu me donnes un petit teasing de ce dont on va parler.
On va dire qu'on reste en Europe pour un sport US.
En Europe pour un sport US. Bon, on a déjà eu le. On va voir. On va rien dire de plus, mais ça va être intéressant, comme d'habitude avec toi, Alex. Allez, je pense qu'il est temps de démarrer. On va y aller. On va donner le coup d'envoi. Alors c'est parti, vous le savez, on commence toujours l'émission désormais par notre Belge de la semaine. Belge de la semaine, et pour commencer, je vais demander à Thomas qui il a choisi comme Belge de la semaine.
Alors j'ai choisi le CEO de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, et malheureusement ce ne sera pas pour les résultats exceptionnels de l'équipe, mais pour une déclaration dont il s'est fendu la semaine dernière, parce que l'UATN demandait de se positionner sur l'intégration des jeunes de l'académie dans le club, qui est très faible, c'est de notoriété publique. Et en soi, il n'y aurait pas de problème s'il avait juste dit « Écoutez, ce n'est pas la politique du club, parce que ce n'est pas la politique du club. » Et puis après tout, c'est comme ça. Il y a des clubs, leur politique, ce n'est pas de former des jeunes et de les amener au haut niveau. Mais le problème, c'est quand il dit ceci dans l'interview. L'année dernière, un grand club de notre pays, dans l'interview avant, il parle de Anderlecht, du Standard, de Gand. Mais là, il dit « A proposé à 17 de nos jeunes joueurs de les rejoindre. Ce club a une éducation de haut niveau et travaille avec des internats. » Bon, jusqu'ici, pas de problème. Mais est-ce vraiment l'intention de lancer un trafic d'enfants?
Oui.
Trafic d'enfants. Donc, je rappelle à Philippe Bormans que le trafic d'enfants est pénalement répréhensible. Et ça représente mondialement Hein, c'est en termes d'argent, c'est le même budget que le trafic de drogue. Hein, juste pour lui donner une idée, il y a des enfants qui sont violés ou on envoie en prostitution, hein, comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez grave. Mais comme je suis assez sympa, et désolé, je vais être un peu long, je suis assez sympa avec Philippe, j'ai lui donné des axes pour qu'il puisse peut-être arriver au niveau d'Anderlecht et le standard. Trois pistes de réflexion. Dans les packs d'équipement à donner, il serait peut-être temps de les donner aux joueuses, par exemple, de la section féminine. L'équipe première féminine n'a toujours pas reçu un pack d'équipement complet. On est fin novembre, il commence à faire froid.
Et ce serait bien qu'elles puissent avoir effectivement un packtage complet.
Ça peut être sympa, et notamment. Et là, il pourra peut-être se comparer à Boisfort, à Lannoy ou à Jodogne, qui sont des très bons clubs d'ailleurs au niveau de la formation. Alors avant même de se comparer à Anderlecht, peut-être se mettre au niveau de ces clubs-là. Des installations adéquates, parce que si vous avez le loisir d'aller faire un tour au stade Joseph Benz, vous verrez que les vestiaires qui sont proposés, bon, on ne parle pas d'un club professionnel, c'est peut-être les vestiaires dans lesquels nous on jouait il y a 20-30 ans. Et alors, parce que, comme tu l'as dit, j'étais dans ce club, on repousse ça sur la commune. Avec la section féminine, j'étais en lien avec la commune. Je peux dire que la commune est très volontariste à ce sujet, donc ce n'est pas de la faute de la commune. Et pour ce qui est de l'internat, de la question de l'internat, je dirais au CEO de l'Union qu'offrir une éducation et en plus le football à des enfants via un système d'internat, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que
Ça se fait.
Notamment en France, par exemple, c'est de notoriété publique. Mais en plus, ça leur permet d'avoir une éducation et un diplôme à la fin. Parce que tous les joueurs, il y en a un sur des groupes de 20, voire 40, qui arrivent au bout.
Sûr,
donc
oui.
C'est bien d'avoir un diplôme à la fin. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière des termes fallacieux pour justifier en fait, des résultats médiocre au niveau de l'académie. Il suffit juste de la restructurer et de mettre des gens qui ont une vraie expérience du football de haut niveau. Évidemment, ces gens-là, il faut les rémunérer. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, on ne peut pas être au même niveau. Mais parler de trafic d'enfants, c'est un minimum problématique. C'est presque scandaleux. Je suis très étonné que personne n'en ait relevé ça dernièrement.
Les mots ont un sens et il faut savoir ce que parler veut dire.
Thomas l'a relevé. Après, j'ai envie de rebondir sur trois axes. Le troisième, en ordre décroissant de ce que Thomas a dit, un internat est justement la clé de la formation. Les joueurs vivent ensemble. Tu me stoppes, toi, en tant que coach, si je dis quelque chose de travers. Mais tu es ensemble, tu vis ensemble, tu joues ensemble, tu étudies ensemble et tu relèves ton niveau sportif, mais intellectuel aussi, dans de nombreux cas, parce que tu as cette envie de prester. Et quand on pense à Auxerre, qui travaille avec des écoles tout autour et des internats tout autour, où les jeunes sont mi-temps football, mi-temps à l'école. Et j'ai envie de dire, aux États-Unis, tu as de plus en plus de centres de formation soccer, donc football, qui sont construits. Tu as certains centres de formation où un internat fait partie intégrante du centre de formation. Avec des profs qui viennent, qui pour instruire les élèves. Donc, il ne sait pas de quoi il parle de toute façon, Philippe. Ça, c'est le deuxième point. J'ai travaillé ensemble et moi, je vais te dire, ce n'est pas Bormans qui dit ça. C'est Muzio qui téléguide son petit toutou Philippe pour mettre ça dans les médias. Parce que Philippe, un, ne sait pas de quoi il parle. Deux, ne dirait jamais des choses pareilles parce que c'est un exécutant, c'est un faible. C'est pas quelqu'un qui prend la parole, c'est pas quelqu'un qui fait des punchlines. Donc c'est quelqu'un qui exécute ce qu'on lui a demandé de dire et de faire. Donc tout ça, c'est téléguidé d'au-dessus parce qu'il y a une frustration, parce qu'il y a, on arrive avec des belles paroles pendant des années pour dire « Ah, mais les jeunes, c'est très important ». Les jeunes, en fait, à l'Union, c'était très simple. Tu avais une formation en division 2 il y a plusieurs années, D3, D2, tu avais des gens qui essayaient tant bien que mal de former des jeunes qui après partaient à Anderlecht, à Gand, dans d'autres clubs. Après, tu avais la partie Iris, qu'on va l'appeler, c'est le social. Ça, c'est la commune de Saint-Gilles qui donne des subsides et qui fait tout pour les jeunes, pour sortir les jeunes des rues et pour les aider. Et peut-être que sur un malentendu, dans le temps, il y en a un qui a un talent, mais en tout cas, tu auras sorti les jeunes de la rue. Mais ici, le business model de l'Union n'est pas du tout de former des jeunes. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui sort. Et le peu qui sort, le seul qui était vraiment bon, c'est Ilyes Ziani, qu'on salue au passage. Il est au standard aujourd'hui. Oui, donc, mais... ce n'est pas leur politique. Et alors, sortir des choses pareilles, c'est secouer une ruche d'abeilles et après venir pleurnicher qui s'est fait piquer. Ben, voilà,
oui, mais en soi, mais si ce n'est pas sa politique, c'est pas la politique du club. Il n'y a pas de honte à ça, en fait. Il y a plein de clubs qui n'ont pas ça. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils disent ça, ils viennent se comparer. Mmh. Mais faites déjà le minimum syndical pour les joueuses et les joueurs qui, là, pour le coup, et je dis ça pour aussi défendre les gens qui jouent là-bas, parce qu'eux, ils sont très fiers de jouer pour l'Union. Mmh. Eux, quand ils arrivent, moi, j'ai parlé à des parents de joueuses et de joueurs, ils arrivent à l'Union, ils sont tous très fiers. Franchement, ils sont fiers de jouer pour l'Union. Il y a quelque chose. Il y a même, ça passe presque plus au-dessus d'Anderlecht, de Molenbeek, parfois, en termes d'affection pour le club. Donc, ça serait bien de rendre ça à ces joueurs et ces joueuses qui sont hyper investis.
Et le dernier point que je voulais aborder, c'est ce que Thomas a dit. J'ai entendu il y a quelques semaines de sources sûres également que l'équipe féminine n'a pas d'équipement.
Ouais,
donc
c'est...
Où est-ce qu'on en est ? On se pavane avec du Nike, on se pavane l'année passée avec une marque qui est obsolète, qui était dégueulasse. Même ça, ils n'étaient pas capables de donner aux jeunes, aux filles. Et c'est un problème énorme, en fait. Et c'est presque du sexisme de laisser les filles sur le côté et juste les utiliser, en fait, quand il y a des résultats positifs, comme on l'a connu les dernières années. Tu as un résultat positif, tu parles des filles. Par contre, quand il faut leur donner un maillot, quand il faut leur donner des équipements, quand il faut avoir une douche chaude après le match, là, on s'en contrefiche.
Bon, eh ben, écoutez, ils seront, en parlant de douche chaude, ils seront rhabillés, eux, pour l'hiver, en tout cas. Philippe Bormans et l'Union. L'Union, dont on salue quand même les résultats, on va en reparler bien sûr tout à l'heure, mais là, quand il faut dire des choses qui fâchent un petit peu, on les dit quand même. Alex, toi tu as choisi qui comme Belge de la semaine ?
Mais on va rester dans le même vivier, moi j'ai pris Felice Mazou, qui lui a réalisé des succès à l'Union également, et avec Charleroi, ils étaient dans le dur. Ça c'est un concurrent direct Westerlo
oui.
Mais à la toute dernière seconde, donc on va dire dans le Felice time,
exactement, ça nous rappelle,
ils réussissent à prendre de nouveau 3 points, donc plus 2 points par rapport à ce qu'ils avaient au Marquoir, 3-2. Mais c'est pas la première fois cette saison que ça arrive, donc l'équipe est dans le dur, Felice est dans le dur. C'est pas la meilleure génération de Charleroi qu'on ait connue les dernières années, mais en attendant ils doivent se sauver parce que les 4 derniers jouent les play-down. On le rappelle, c'est très compliqué. Il n'y a pas cette expérience à bord non plus à Charleroi, contrairement à Malines, contrairement à Courtrai, contrairement à Westerlo. Donc c'est très difficile et c'est la troisième fois cette saison qu'ils prennent des points dans les arrêts de jeu, qu'ils prennent les 3 points dans les arrêts de jeu. Et sinon, sans ça, le Sporting serait bon dernier.
Ouais. En tout cas, on salue Felice Mazou. Qui a effectivement encore ravivé sa cote de le Fergie Time, le Felice Time. Moi, j'ai choisi, on va traverser la Manche, j'ai choisi Jérémy Doku. Jérémy Doku qui n'en finit pas d'époustoufler tout le monde et il a battu un record. Les statisticiens se sont penchés là-dessus. C'est déjà le meilleur dribbleur du championnat anglais. Il réussit 4,3 dribbles par match. Eh bien là, il est le joueur, il a battu un record, celui du nombre de dribbles réussis dans un match, 11. C'était Adama Traoré, il y a plus de 2 ans, et depuis qu'on relève les statistiques, ces statistiques-là, en tout cas en Première Ligue, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, il est le seul à avoir affiché un taux de réussite semblable, donc 11 dribbles réussis en un match. Il n'en finit pas de d'étonner, d'épater, on l'avait vu partant d'Anderlecht, il avait eu un petit moment d'adaptation à Rennes, une blessure, et puis on se demandait si la marche n'était pas trop haute, et puis finalement, pas du tout.
C'est un championnat fait pour lui.
C'est un championnat fait de son explosivité et ses dribbles font des ravages en Première Ligue. Eh bien, bravo à lui. Jérémy Doku, une pièce essentielle maintenant aussi dans le dispositif des Diables Rouges. Si on attaquait la Jupiler Pro League,
go.
Eh ben, on va attaquer la Jupiler Pro League alors. C'était la 15e journée. La 15e journée, qui dit 15e journée dit fin des matchs aller, puisqu'il y a 16 équipes en D1A. Et donc, on a achevé cette première phase. Et on va commencer par le leader, dont on a abondamment parlé, mais pour d'autres raisons en tout début d'émission, l'Union Saint-Gilloise qui rendait visite à la Gantoise. Alors, coup d'arrêt pour l'Union, qui restait sur 8 victoires consécutives et qui, cette fois, n'a pu faire mieux qu'un partout à Gand. Ils ont paru un peu en souffrance, il y a eu des approximations. Alors vous allez me contredire, j'allais dire qu'on ne voyait pas, ou peut-être qu'on voyait quand même, mais ils réussissaient tout de même à retourner la situation ou à gagner ces matchs. Là, ils étaient face à un adversaire costaud quand même, hein, la Gantoise. Et à Gand. Et cette fois-ci, ils ont fait match nul. C'est encore leur force de caractère aussi qui les ramène dans le match.
Ils sont à Gand, ils prennent un point, les autres en profitent pas ou peu. Et puis en fait, cette saison, ils font très peu d'erreurs. Ils font moins d'erreurs que les années précédentes, c'est-à-dire que l'année dernière ou les années précédentes, ils pouvaient perdre des points ici et là. Là, quand ils se plantent dans les grandes largeurs, c'est-à-dire qu'ils vont perdre 3-0 à l'ASC. Mais après, ça reste très solide. Et c'est ce que je disais avant l'émission, si les autres ne se réveillent pas très rapidement, ils vont arriver, parce qu'en fait, on est déjà à la mi-saison, ils vont arriver avant les playoffs avec 7 points derrière l'Union. Et cette fois-ci, je ne parierais pas sur un miracle, un joueur japonais qu'on n'a jamais vu, qui arrive, qui débarque, qui met un but, on ne sait pas comment il le met de la tête face à Nilsson 2 mètres, ça ne va pas tout le temps arriver. Hein.
Non.
Donc les autres, Anderlecht est au contact, mais les autres devraient se méfier. Alors moi, si l'Union est championne, je suis plutôt content parce que j'ai passé mes meilleures années là-bas, malgré ce que j'ai pu dire en ouverture d'émission.
Qui aime bien, châtie bien.
Exactement. On est toujours plus sévère avec les gens qu'on aime.
Et c'est dans le but d'évoluer pour les jeunes, pour le club.
Mais ils sont très solides, ils ne perdent pas de points. Les confrontations directes, mine de rien, ça va les mettre en confiance pour les play-offs, parce qu'ils vont arriver sur ces matchs en se disant on est capable, même avec une toute nouvelle équipe. Et donc ça mettra leur crédit. Et pour moi, ils sont favoris aujourd'hui.
Après, la question est, est-ce qu'ils ne sont pas au sommet de leur forme beaucoup trop tôt dans la saison? Ça, c'est une question qu'on se pose. Chaque équipe connaît un passage à vide, à part les tiennes, Thomas. Mais chaque équipe connaît un passage à vide d'un niveau sportif. Anderlecht a eu ce passage à vide, mais a continué à gagner des matchs. Est-ce qu'eux ne sont pas au sommet de leur forme et ne vont pas perdre davantage de points au second tour qui commence effectivement la semaine prochaine? Mais ici, à Gand, tu es, pour moi, face au candidat numéro 1 au titre. Ouais, la Gantoise. Anderlecht est le numéro 2 d'ailleurs. Mais...
On reviendra sur Anderlecht. Ouais, là, on a eu très belles interventions, des beaux. Il y a eu un peu de tout en fait dans ce match-là. On a vu des loupés qu'on ne voyait pas habituellement. Amoura notamment qui a fait une. Et on a vu un super sauvetage de McAllister, Maurice qui était aussi là. Il y a de la force et du caractère dans cette équipe de Lyon.
Il y a de la force, il y a de la complémentarité. À chaque fois qu'il perd un joueur, le nouveau, il est très fort, voire plus fort. On verra comment Amoura se comporte sur encore 2-3 mois. Mais,
Toujours dû avoir une carte rouge hier d'ailleurs.
Oui, ouais. Bon, au-delà de ça, sur ses performances, pour l'avoir vu au stade et à la télé, c'est quand même très impressionnant, ça va très 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 vite.
Quelle vitesse, vivacité incroyable.
Sur les 5 premiers mètres, je pense pas qu'il y ait un joueur en Pro League capable de le prendre, voire peut-être, je pense qu'il serait même très fort dans les 5 grands championnats sur cette particularité.
Ouais.
Il est plutôt agile en 1 contre 1, ce qui leur manquait un peu l'année dernière, de justesse devant le but. Honnêtement, j'ai dit dans mes précédentes interventions que pour moi, la Gantoise, voire Anderlecht avec plus d'expérience, évidemment, je vois l'Union avancer, je me dis que ça peut sentir bon. On verra l'hiver et la Coupe d'Europe.
Alors justement, oui, la Coupe d'Europe, ils ont un match important, très important, ils jouent gros en milieu de semaine, ils seront opposés au Toulouse Football Club en Ligue Europa. Alors, l'Union pointe actuellement la 3e place du groupe, ils ont 4 points, soit 3 de moins que le TFC, leur adversaire au Garonnais. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité, un partout. Le match se déroulera cette fois-ci au Stadium où, sur un malentendu, ça a déjà marché.
Ça peut passer.
C'était, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'était cette banderole super sympa et très amusante des supporters toulousains. Le PSG avait sorti contre le Milan AC une énorme banderole avec la tête de Jean-Paul Belmondo qui visait, avec un énorme pistolet, qui visait la tribune adverse, comme pour dire « on vous a dans le viseur, on va vous battre ». Et eux, ils ont parié sur un autre héros du cinéma français, un petit peu moins charismatique, Jean-Claude Duss, donc Michel Blanc dans Les Bronzés, et sa célèbre phrase « vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut marcher », puisqu'ils étaient opposés à Liverpool. Et bien, sur un malentendu, ça a marché. Ils ont réussi à battre Liverpool, ce qui fait que les Toulousains, qu'on voyait un petit peu déjà perdus dans cette Ligue Europa, et ben, ils sont devant l'Union Saint-Gilloise. Et on en parlait un peu. En France, je crois qu'on regarde d'un peu haut l'Union, même si l'Union est leader du championnat de Belgique.
L'Union commence à avoir un peu ses entrées au niveau du football français. Enfin, c'est un club qu'on visualise un peu. Mais il y a surtout une grande tradition dans le football français, c'est le jeudi noir. Hein. Ouais. Le jeudi noir, c'est le jeudi où aucune de nos équipes qualifiées en conférence ou Europa League gagne un match. Donc, faut pas oublier que Toulouse, l'année dernière, c'est 13e de Ligue 1.
Ouais, c'est quand
même pas
terrible,
de Ligue 1, le premier ou le deuxième de Belgique, ça peut être kiff-kiff. Hein. Donc,
ouais.
Ok, Toulouse doit faire un résultat parce qu'ils sont deuxième et maintenant ils doivent se qualifier. L'Union peut aussi aller faire un résultat.
Et surtout, l'Union doit faire un résultat parce que s'ils ne gagnent pas, ils resteront au mieux à 3 points de Toulouse s'il y a un nul. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué puisque le dernier match, si je ne m'abuse, ce sera face à Liverpool.
C'est le Datatico. C'est deux clubs qui utilisent la data pour faire leur recrutement, qui changent tous les effectifs tous les ans. Donc, c'est bien. Ça,
ouais, ça va être
donner un choc. Non, mais c'est un choc équilibré, intéressant.
Toi, tu as un petit...
Je n'ai pas vu le match parce que j'étais à un autre match hier, donc sûrement un dont tu parleras tout de suite.
Bien sûr, et avant de passer à un autre match, donc l'Union jouait la Gantoise. La Gantoise joue également en milieu de semaine, ce sera jeudi. Eux, ils ont leur destin entre leurs mains, puisqu'ils sont en tête de leur groupe, ils ont 10 points, soit un de plus que le Maccabi Tel Aviv, qui l'a d'ailleurs emporté ce week-end face au club ukrainien de Zorya. Le Maccabi Tel Aviv avait forcément des matchs en retard, et là ils ont joué en Serbie et ils l'ont emporté 3-2, ce qui fait qu'ils sont désormais deuxième avec 9 points et ils ont joué 4 matchs. Et c'est donc justement les Ukrainiens de Zorya que les Gantois recevront. Et les Ukrainiens de Zorya, ils auront vraiment besoin d'une victoire. Le Maccabi Tel Aviv sera en Islande pour Blaidabnik.
Charme de la Conference League.
Ouais, les voyages improbables de la Conference League. Donc les Gantois, eux, ils sont plutôt en bonne position. Et c'est vrai qu'ils devraient passer l'hiver au chaud, comme on dit.
C'est impossible de plus le passer.
Ouais. Il faudrait vraiment un sacré concours de circonstances. Mais effectivement, la Coupe d'Europe, on en a parlé, ça peut avoir un impact. Et donc, ça me permet d'enchaîner parfaitement sur une équipe qui, elle, ne va pas être ennuyée par la Coupe d'Europe. Et on salue Henri au passage. C'est Anderlecht, puisqu'Anderlecht ne joue pas la Coupe d'Europe. Mais il y avait hier le derby bruxellois qui opposait Anderlecht au RWDM. Et ce sont les Mauves qui l'ont emporté. Est-ce que c'est le match que tu allais voir ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
J'étais autre part encore. Le match entre ces deux-là, justement, dont tu parles. Mais j'ai cru comprendre que les Mauves ont eu un petit coup de pouce sympathique.
Oui, il y a eu quelques débats, mais Anderlecht s'en sort sur le fil.
Comme d'habitude.
Ça passe encore, mais ça passe tout le temps. Hein. C'est pour l'instant, ils sont sur le fil, on a l'impression qu'ils gagnent l'expérience. Je veux pas ouvrir le dossier du gardien d'Anderlecht, mais quand même, il y a un sujet. Le mec prend un but par match.
Kasper,
même au Danemark, les gens se posent des questions. Il n'y a qu'à Anderlecht où on ne se pose pas la question de savoir s'il n'est pas dans les buts parce qu'il a la bonne nationalité.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de Danois dans cette équipe,
Depuis le jour où on a cité son nom, tout le monde savait exactement ce qui allait se passer, et c'est ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue structurel, c'est-à-dire sa titularisation, ou d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire ses bourdes à répétition.
Ouais. Ceci étant, il y a les play-offs en Belgique, donc c'est un peu différent, mais en France, on dirait que c'est une victoire de champion. À la dernière minute, à l'arraché, alors que le match, Molenbeek a défendu très bas, mais bon, après tout, Molenbeek joue le maintien. Mais c'est une victoire de champion, quoi. Arraché un peu comme ça à la dernière seconde, oui, avec un coup de pouce de l'arbitrage. Mais bon, j'ai toujours tendance à dire quand on passe 70% du temps dans la surface adverse, il y a quand même plus de chances qu'on ait un pénalty que l'adversaire.
C'est vrai.
Parfois c'est à la limite de la limite, mais bon, ça, moi.
Vertonghen est monté, c'est lui qui délivre
le centre
du côté gauche.
Il y avait de la volonté.
Disons que cette chance se provoque aussi.
Oui, c'est ça. Mais quand vous passez tout le temps dans c'est comme, on a ce débat souvent récurrent à l'époque lyonnaise, oh, pénalty pour Lyon, c'était une blague, pénalty pour Lyon. Souvent, c'était sifflé par Clément Turpin.
Ouais.
Mais Lyon passait tout son temps dans la surface adverse.
Oui, forcément, il y a un moment où ça a plus de chance.
Et forcément, à un moment, même l'arbitre, il est influencé par ça. Tout le temps, il voit des contacts dans la surface et à un moment, il siffle. Parce que là, je voyais les commentaires, l'arbitrage, enfin... Moi, je pars du principe que les arbitres sont honnêtes, sauf si on me prouve le contraire, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Et là, ils ont un pénalty, ok, c'est généreux, mais ils prennent les 3 points.
Disons qu'en Belgique, on ne va pas qualifier les arbitres de malhonnêtes, mais il y a eu toute une période où il y a eu certains arbitres qui ont reçu des montres, qui
des
ont reçu...
Des boîtes
Non, les boîtes, elles étaient chez Moji à la maison. Mais il y a certains arbitres qui ont reçu des montres, qui ont reçu des belles réductions de 30% sur leur nouvelle voiture. Et bizarrement, il y a certains arbitres qui étaient très favorables à donner des pénalties à un club qui travaillait avec Moji Bayat. Et c'est bizarrement Anderlecht, pendant toute une période, qui recevait ça. Et je me souviens d'un Anderlecht Saint-Tron avec Tim Potts comme arbitre. Le joueur, il est tombé en dehors de la surface, il y a eu un pénalty. Alors là, ça reste dans la tête des gens. Ça reste dans les supporters de Bruges, ça reste dans la tête des supporters du Standard.
Et
ça reste
pas que avec le VAR justement ça pu un petit peu faire
tout le monde connaît mon avis sur la VAR. La VAR justement est un moyen de rendre presque binaire une règle ou une faute. Donc moi je trouve ça très positif et je demande pas mieux, mais force est de constater que malgré la VAR, il y a encore des interprétations qui diffèrent et certaines erreurs, mais il y en a beaucoup moins qu'avant.
Mais il y a aussi beaucoup de pénalty VAR, hein. Parce que ça faut le dire, quand on voit l'arbitre, parce qu'en plus parfois, je sais pas si on le voit tout le temps en Belgique, je crois qu'il le montre pas, mais en France on peut voir l'arbitre et on voit l'écran, donc on voit ce que voit l'arbitre. Parfois, on peut voir. Mais franchement, prendre une décision sur une image où on voit le pied qui touche, mais alors qu'en fait, au football, c'est pas un contact, c'est pas une faute, c'est jamais. Alors, le nombre de pénalty VAR qu'on peut voir en Ligue 1, oh là là, il y en a même eu un pour Paris il y a 2 semaines.
Quand je vois, je suis d'accord avec toi, quand je vois le plan sur l'arbitre qui regarde la télé et qu'on voit l'image qu'on lui montre, je me dis si j'étais à la place de l'arbitre, je demanderais montre-moi autre chose, parce que là,
je peux pas contact au ralenti, on va me dire c'est une faute. Et en plus, pour moi, il y a un autre débat, mais c'est beaucoup plus philosophique, c'est qu'il y a deux football aujourd'hui, il y a le football professionnel et les autres footballs, parce que dans l'autre football, il n'y a pas de VAR.
C'est vrai.
Et du coup, c'est deux sports.
Alors, il y a Jean-Michel Larquet, il y a des années et des années qui parlait de ça, et justement parce que Michel Platini, lui, était contre la technologie pour que le sport avec le football reste universel, et Jean-Michel Larquet avait dit un truc pas inintéressant, il avait dit oui, mais comme vous avez Roland Garros, je ne vais pas faire l'accent de Biarro de Jean-Michel Larquet, Roland Garros, vous avez des juges de ligne, vous avez un juge arbitre, mais à l'Open de Saint-Jean-de-Luz, bah, vous avez juste un arbitre de chaise, et c'est comme ça, il y a une question de dimension de budget. Et justement, budget, moi je pense à une chose...
Thomas a raison, tu devrais pouvoir voir et à la TV et dans le stade ce que voit l'arbitre et entendre ce que dit l'arbitre. Comme à la Coupe du Monde du rugby il y a quelques semaines, il y a une décision, même une carte rouge en finale après quelques minutes, tu entends à la TV exactement ce que se disent les arbitres. Et ça t'aide à interpréter et à comprendre.
C'est pas le même public quand même. Hein. Parce que moi,
tout à fait d'accord. Mais
j'aimerais bien voir des supporters de certains clubs où c'est très chaud. On va montrer sur les écrans géants et ensuite voir leur réaction. Enfin, encore une fois, je prends le prisme français. Quand on voit que certains matchs ne peuvent pas démarrer parce qu'il y a des mecs qui trouvent des pavés et qui pensent que c'est intelligent de le balancer sur un bus. Et d'ailleurs, qu'on fait rejouer ce match dans le même stade avec les supporters, parce que c'est rien passé.
Scandaleux.
Ça, c'est la Ligue de football professionnelle.
Blaise, si tu nous écoutes, on t'embrasse.
Oui, exactement. Mais franchement, c'est compliqué.
Alors moi, il y a un point, c'était pas dans ce match-là, je me souviens plus du... Il n'y a pas la goal line technology en Belgique, il n'y avait pas non plus la goal line technology lors du match Grèce-France. Ouais. Ça, je trouve que c'est... Autant la VAR, on en a parlé, il y a une question d'interprétation, autant ça, je veux bien comprendre que ça ait un coût, mais c'est tellement... là pour le coup binaire, le ballon est rentré ou pas rentré, c'est quand même ce qui est le plus important au football.
Oui, ça devrait être le premier investissement. Ouais, absolument. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, on pourrait systématiser ça au hors-jeu, parce que j'entends aujourd'hui des débats comme Arsène Wenger, il veut rendre une limite tolérable. En fait, il essaie d'inventer une limite tolérable, ce qui est complètement débile, parce qu'en fait, on va quand même tracer la ligne et ça va jouer à la limite
C'est ce qu'on avait dit ici, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'épaisseur de la ligne qui va changer.
Mais non, tu repousses la limite, c'est tout.
Oui, repousses la limite, mais ça jouera, on verra toujours un mec jouer avec une ligne.
C'est
mais
ça.
Pour moi, la vidéo où la technologie aide sur la goal line, sur le hors-jeu, après, voilà, allez, sur les mains, mais quand on voit certaines mains siffler, on peut discuter, mais ça doit aider l'arbitre, mais l'arbitre est un humain, il a son interprétation, et a priori, on doit leur laisser ça. Ce sont des acteurs, le football c'est un sport vivant, c'est un sport humain, c'est pas un truc de robot.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est rageant quand on est supporter et qu'on constate une erreur flagrante d'un arbitre, mais alors, je vais pas dire que ça s'équilibre parce que ça s'équilibre pas,
mais
on le sait pas, mais c'est comme ça. Mais quand un joueur de votre équipe, un joueur que vous supportez, loupe lamentablement une occasion, c'est aussi une erreur.
C'est exactement ça, le foot est fait de ça, d'erreurs de gardien, dont on se souvient, d'erreurs d'attaquants, des duels manqués. Par exemple, les Néerlandais doivent sûrement penser au face-à-face de Robben face à Casillas. Ouais. Mais comme les Espagnols, s'ils avaient perdu, ils auraient dit « Bah ouais, mais l'arbitre, il aurait dû mettre rouge à De Jong et à Van Bommel à l'époque. »
Ah oui.
Ouais, c'est comme ça, mais c'est fait erreur d'attaquant, erreur de défenseur, de milieu, d'arbitre. C'est un sport humain. Et si on enlève l'humain, le foot, c'est moins intéressant.
Qui était l'arbitre en 86 ?
De...
À Séville.
Non, 82, Charles Corver.
Non, je ne parle pas de Batiston.
Tu parlais de quel match ?
Je parle de Maradona, moi.
Ah, Maradona, l'arbitre tunisien.
Mais voilà. C'est un moment les plus iconiques du foot.
Oui, mais personne ne connaît son nom.
Je vais te le retrouver peut-être.
Oui, d'accord, moi aussi je peux le retrouver.
Non, de tête. Non,
mais c'est un moment iconique du foot.
Oui, voilà.
Et c'est une erreur d'arbitrage qui donne la main de Dieu.
Mais par contre, je suis sûr que tu connais le nom de l'arbitre qui a accordé la main, qui a éliminé l'OM en demi-finale de Ligue des Champions, Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, 90, face à Benfica, avec la main de Vata. C'est un arbitre belge.
Un grand monsieur.
Marcel Van Langenhove.
Moi, je connais Monsieur Foot.
Monsieur Foot, c'est un salaud. On le sait. Monsieur Foot est un salaud. Juste un petit mot sur le RWDM. Ça m'a fait plaisir de revoir Xavier Mercier.
Je pensais Claudio Cassapa, mais non.
C'est vrai aussi, j'ai vu Claudio Cassapa, c'était sympa. Non, Xavier Mercier qui jouait à OHL avec, non pas Thierry, mais Thomas Henry, il y a quelques saisons, et c'est un beau joueur. Il est parti à Ferencváros, c'est ça, en Hongrie, une saison, et puis il est revenu. Et alors, il y a un autre joueur, que lui, je ne l'avais pas du tout vu qu'il était là, c'est l'ancien Lyonnais, Jeff.
Quelle descente aux enfers. Hein.
Reine Adélaïde, ouais.
Quelle descente aux enfers.
Il avait été annoncé comme un.
Le mec, il passe de Lyon. On parlait de lui comme une des vedettes à venir au milieu en équipe de France. Et il se retrouve. Enfin, attention, tout le respect que j'ai pour le WDM. Hein, mais un mec qui devait jouer dans les 5 grands championnats européens, dans les plus grands clubs, qui se retrouve à jouer le maintien en Belgique.
Il s'était fait les croisés, lui, non ?
Oui, il s'était fait les croisés, mais même avant, il avait du mal. Et en plus, on le voit, on le sent quand il est sur le terrain, c'est facile pour lui. On le sent qu'il est beaucoup plus fort. On a l'impression qu'il ne se donne pas les moyens, mais il est fort. Hein.
Il est très,
très fort techniquement. Et Xavier Mercier, c'est un très beau joueur à voir au stade. Ouais. Au stade, c'est un régal de ce mec.
Il y a pas mal de grands talents français qui ont transité par la Belgique, et même Cosiello qui était à Virton il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Tu as eu.
Le meilleur exemple, en tout cas celui qui a eu. Je suis content pour lui, c'est Teddy Thomas, qui, après avoir fait les divisions inférieures en France, a donné un vrai sens à sa carrière.
Ascendante, voilà. Tandis qu'ici, c'est en pente descendante. Les Cosiello.
Il a commencé.
Ensoki.
Stanley Ensoki, il est devenu.
Bon, tu passes du PSG à Bruges pour aller en Bundesliga.
PSG, Nice, Bruges.
Ouais.
Hoffenheim.
Ouais, mais.
Il est remplaçant à Hoffenheim, non ? Il joue pas.
Mais moi, je le trouvais mauvais à Bruges aussi.
Ah oui, il avait été assez.
Non, mais c'est.
Ce joueur manque de concentration. Il a du talent, mais il n'a pas cette concentration, ce focus, cette envie.
Une carrière, ça va vite. Hein.
Ça va vite. Anderlecht a gagné, recolle quelque peu au Basque de l'Union, puisqu'il compte 4 points de retard maintenant. On va en venir à un troisième match, peut-être celui que tu es allé voir.
Il n'y en a plus qu'un. Sauf si j'étais à Courtrai-Malines.
Non, je pense pas. Je pense que tu es allé plutôt voir le club de Bruges qui était en déplacement à OHL. Et le club de Bruges l'a emporté 1-0, but magnifique de Jude Glas.
Oui.
Très beau but. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton club qui te fait un petit peu mal depuis le début de la saison, hein, on le sait.
Ça fait 3 ans. Mais
Tu vas encore nous parler de...
Le but est magnifique, non, le but est magnifique, c'est un éclair de génie qui ne devrait jamais arriver, parce que quand tu es à 45 plus 2, n'importe quel coach te dira que tu fermes la boutique derrière et tu ne perds pas bêtement un ballon.
Ouais.
Donc c'est grâce au manque de concentration de Louvain. Après, ouais, tu as une belle passe, très
justement.
Beau tir, tir magnifique, mais de l'autre côté, dans le jeu, Bruges n'a rien fait d'impressionnant. Bruges ne s'est pas créé une multitude d'occasions très franches, même si en fin de match, il y a eu des espaces. Et là, Jude Gla et Thiago ont raté ces occasions et
cette opportunité
de faire le break. Mais après, Bruges s'en sort bien. Hein. 0-1 à Louvain, quand Anderlecht leur en met 5 il y a 3 semaines, je me pose toujours des questions. Bruges est toujours malade.
Ouais.
Tu as un peu moins de fièvre, mais tu es toujours malade.
Donc, je raconte un peu ma vie, mais j'étais avec au travail, il y a un ami qui est supporter de Lyon, et on était sur le chemin vers Bordeaux. Et on parlait justement de Bruges et de Deyla. Et je lui disais que, en fait, Deyla, ce n'est pas un coach fait pour Bruges. Comme Klopp n'est pas fait pour, dans une autre mesure, mais pour Manchester City ou Manchester United. Il y a des coachs comme ça qui sont faits pour un certain type de club, certains clubs plus élégants, certains plus familiaux, ou Mazou d'ailleurs. Mm-hmm. Mazou avait un fit parfait avec l'Union, mais Anderlecht, club plus politique, plus brillant, etc. Mais il n'y a pas le match. Et on a l'impression que Deyla, c'est un mec fait pour un club en feu, un peu, où il y a ce feu. Par exemple, si on rapportait Deyla à la France, Deyla, c'est plus un coach pour Lens ou l'Olympique de Marseille, pas pour le PSG.
Ouais.
Le PSG, il faut un coach, c'est Paris, c'est la capitale, il faut les paillettes.
C'est un peu Galtier, hein, comme Galtier, qui peut être un joueur qui transcende, mais un entraîneur.
Et Deyla ne fit pas, en fait.
Et Deyla ne fit pas très bien.
On s'attendait à ce qu'il fit, justement, parce qu'il y avait plus de feu à Bruges, traditionnellement. Tu penses à Trond Søljæt, indéniablement, l'entraîneur norvégien qui a, je pense, réalisé les plus belles années du club de Bruges des 50 dernières, avec deux coupes, deux titres en 4 ans. Et tu pensais que Deyla allait suivre cette trace, tu pensais qu'il allait pouvoir rallumer le feu, raviver cette flamme auprès des fans, auprès des joueurs. Mais force est de constater qu'il est dans un club aussi politisé, en revente, avec beaucoup de problèmes en interne. Mais il n'y arrive pas à sortir les joueurs de là. Et en plus, dans son groupe, il y a 2-3 joueurs flamands qui mènent un peu la barque et qui décident de tout. Il ne s'est rien changé, comme ses prédécesseurs d'ailleurs.
Moi, il y a un joueur sur lequel j'aimerais t'interroger, puisque tu étais au match. C'est Buchanan, qui est brillant offensivement, mais qu'on a vu notamment passer au travers sur une grosse occasion. Et je me demande, là aussi, si ça ne participe pas des limites de Bruges. C'est-à-dire qu'une défense, on l'a déjà dit, hein, la défense centrale n'est pas hyper rassurante. Et quand on met un joueur qui est un ailier de formation, qu'on le fait jouer back droit, même s'il joue un peu plus haut, ça pose question. Et ça peut... Alors effectivement, c'est lui qui donne l'assist sur le but de Jude Gla, mais en phase... défensive, il est beaucoup moins à l'aise. Mais j'ai trouvé qu'il était revenu un petit peu. Bon, il avait été blessé, mais il est revenu à un bon niveau.
Il était blessé, mais il était souvent blessé. Mais c'est un ailier droit que tu transformes en back droit, que tu lui apprends à défendre. C'est quand même très compliqué. À côté de toi, tu as Mechele, tu n'as pas envie de lui donner un ballon parce qu'il va le perdre. De l'autre côté, tu as Spiliers, qui est un jeune talent, mais qui n'a pas d'expérience et qui peut passer à tout moment à côté de son match aussi. Et puis, tu as Maxime de Kuyper de l'autre côté qui est, et ça, c'est, je le disais avec la personne avec qui j'étais, un agent hier, Maxime de Kuyper, c'est ton meilleur transfert. Et c'est quand même un joueur que tu as prêté à Westerlo l'année passée. Il revient à Bruges et c'est ton meilleur joueur qui est titulaire indiscutable depuis le début de saison.
Il ne faut pas oublier que Bruges est quand même le plus gros budget.
Ouais.
C'est le plus gros budget de Belgique. On se demande ce qu'ils ont fait avec l'argent.
Chercher,
quand on voit l'effectif aujourd'hui, ça fait mal à la tête. Hein.
Ouais.
Parce que Buchanan, quand on l'a vu arriver, c'est vrai qu'il était bon, le dribble, un contraint très fort, très explosif. Mais ça fait souvent cheat. Hein.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu le joueur d'Oliprane, il ressemble à Dembélé. C'est-à-dire qu'il vous fait tourner la tête et puis au moment de marquer, ça marche pas.
Ça marche pas. Et Skovolsen était sur le banc.
Mais lui, il a des problèmes psychologiques.
Ouais.
Donc entre Skovolsen qui a des problèmes psychologiques, Vetlesen qui est vendu comme un talent norvégien, un viking, un battant, qui a un tir à distance, qui distille des passes phénoménales, qui se bat de la première à la dernière seconde.
On attend de voir.
Moi, c'est plus des poupées Barbie là que je vois. Hein. Donc tu as ça, tu as Kasper qui n'arrive pas à se remettre de sa blessure de l'année passée, tu as Buchanan qui joue pas à sa place, tu as Mecheler en défense centrale qui devrait déjà plus y être depuis 5 ans mais qui est encore, tu as Spiliers qui est jeune, qui a du talent mais qui a besoin d'être encadré par un défenseur polyvalent avec de l'expérience, tu as De Kuyper qui joue ses matchs et franchement grand respect pour lui parce qu'il a réussi à hausser son niveau à Westerlo et c'est le meilleur joueur du club cette saison pour moi. Tu as Skoras qui a coûté 6 millions qui est sur le banc, tu as Thiago qui a coûté 9 millions qui te plante pas un but même facile et qui va prendre plus de rouges que de buts finalement.
9 millions, c'est wow. On se rend pas compte ouais. Mais
puis tu as Jude Glack qui revient de blessure et qui lui sort tout doucement la tête de l'eau.
Ouais.
Et puis tu as Skovolson
Hans Van Aken qui fait son bonhomme de chemin.
Van Aken, voilà. Mignolet, ils font leur taf.
Ouais,
ni plus ni moins.
Ça va être compliqué, on le sait.
Mais
pour,
maintenant, Bruges, sorry, mais tu as le Standard qui arrive, tu as Gand, tu as l'Union. Tu as 3 matchs capitaux que tu ne peux pas perdre à domicile.
Et attention, ils sont déjà, je regardais là, 12 points l'Union. Hein.
Ouais,
c'est que tu démarres si tu vas en play-off, tu démarres à 12 points. C'est énorme. À 6 points, pardon.
6 points de retard.
Mais 6 points, c'est énorme à rattraper.
Tu dois gagner tes matchs à domicile avant 2024.
Ouais, là,
t'as le couteau sous la gorge.
Le club de Bruges est 7e actuellement. Effectivement, le Standard est à 3 points seulement. Le Standard qui l'a emporté face à Genk, 1-0. Juste pour rester sur Bruges, Bruges en Coupe d'Europe, ça va mieux. Puisque ils sont en tête avec 10 points. Ils ont 3 points d'avance sur Bodo Glimt, 6 sur Lugano et 9 sur Beşiktaş. Beşiktaş qu'ils visiteront justement ce jeudi. Ça va être la dernière occasion pour Beşiktaş d'espérer pouvoir rester en Coupe d'Europe. Enfin, a priori, ils sont pour pouvoir au moins espérer revenir sur Bodo Glimt. Pas
ça,
sur
un sacré miracle. Hein.
Ouais. Ouais, il faut gagner deux matchs. Mais voilà, ça va
et
être
espérer que les autres perdent.
Espérer que les autres perdent.
Mais je ne suis pas sûr que Bodo Glimt Bruges, le dernier match, même match nul que Beşiktaş pourra. Donc c'est à suivre. Mais on va quand même pas se réjouir que Bruges a fait 6-6 contre Lugano qui est 8e en Suisse et qui a été battre Bodø Glimt qui est aussi 8e en Norvège.
Bon, c'était le minimum et ils ont assuré le minimum. On va clore cette page Jupiler Pro League. On rappelle le classement, l'Union Saint-Gilloise 35 points, 2e Anderlecht 31, 3e la Gantoise 28 points, 4e l'autre club de Bruges, le Cercle 25 points, le 5e le champion en titre, l'Antwerp avec 24, tout comme Genk 24 points. Voilà les 6 clubs qui pour le moment seraient qualifiés pour le play-off. On en a terminé avec cette page Jupiler Pro League et on va bientôt attaquer la Minute Sportive. Hein, il est temps de parler un petit peu, de se prendre un peu de hauteur, de se retirer du rectangle vert et de voir un peu ce qui se passe en coulisses, dans les marketing et tout ce qui se passe autour du stade. Alors Alex, tu nous as un petit peu teasé lors du sommaire en nous disant qu'on allait parler, on allait rester en Europe pour parler d'un sport US. Dis-nous en plus.
Et on va rester sur un terrain vert, c'est-à-dire le terrain de Francfort dont il sera question plus en détail. Mais on va parler de NFL, donc de football américain. Qui a 25 ans d'avance, je pense, sur toutes les structures sportives européennes, que ce soit financières ou même de développement de marques et marketing. Et nos amis de la NFL, depuis 2007, ils organisent des matchs en Europe. Donc, ils délocalisent des matchs de championnat. Donc, ils ont été à Londres, pour commencer. Ensuite, ça a perduré. Ça a été au Mexique, par exemple. Et dernièrement, ils ont un accord avec l'Allemagne. Et donc, il y a eu l'année passée un match à Munich, à l'Allianz Arena. Et cette année, il y a eu 2 matchs même à Francfort. Donc, il faut savoir, la NFL, ils ont ouvert un bureau carrément à Düsseldorf pour gérer tout l'opérationnel local en Allemagne. Et à Francfort, c'est un case très intéressant parce qu'on a eu les Patriots contre les Colts qui ont joué là le 12 novembre dernier. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ce match, c'est le match de NFL le plus vu aux États-Unis qui est délocalisé. Donc, tu as eu à 9h30 du matin,
c'est ça, j'allais dire,
aux States, un nombre incroyable de spectateurs qui regardaient la TV. C'était 9,6 millions qui regardaient ce match spécifique parce qu'il se déroulait à Francfort à 15h30. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que ça vit aux États-Unis cette délocalisation et ça vit même en Europe. Le stade était plein, et l'Allemagne a eu peur au début, donc ils avaient stratégiquement adapté le calendrier. Ce match se jouait avec Dortmund-Bayern comme locomotive qui se jouait juste après. Donc, en espérant capitaliser et captiver les fans de foot allemand, ils ont fait une après-midi NFL Bundesliga, le grand match. Mais donc tout ça, ça vit complètement. Et la question est pourquoi est-ce que la NFL investit tellement d'énergie et de temps à délocaliser ce match ? Parce que pour une équipe, c'est pas simple. Tu voles 8 heures, tu dois complètement te réadapter à un autre rythme horaire pour un match de presque 2 heures et que tu dois gagner parce que tes points, tu les as besoin en championnat et tes fans, ils t'attendent à la maison aussi. Et donc la NFL fait ça, il touche à un autre marché. C'est le marché anglais, le marché allemand, le marché mexicain, canadien. Et maintenant, on parle même du Real Madrid qui accueillerait des matchs NFL à partir de 2025 dans son nouveau stade. Donc, il y a ce marché espagnol. Parallèlement à ça, il y a le marché brésilien. Donc, on voit déjà dans 6 pays différents que la NFL veut s'introduire pour des droits TV, pour du sponsoring, pour du merchandising local et pour créer en fait cette communauté de football américain en Europe également.
Eh ben, c'est une, j'allais dire, c'est une innovation. Pour le coup, je ne sais pas si c'est vraiment une innovation, parce que c'est la NBA qui a aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, ils fonctionnent aussi de la même manière. Et c'est vrai que ils essayent de sortir des frontières des États-Unis pour conquérir le monde. Et la NBA,
c'est le même business model. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UEFA commence à étudier de plus en plus de pistes similaires pour délocaliser la finale de la Ligue des Champions, parce qu'on voit déjà en Italie la Supercoupe se joue en Arabie Saoudite, en Espagne elle se joue également au Moyen-Orient, on a eu des matchs aussi
en France, on a joué le trophée PSG, des champions en Israël, en Chine,
mais pour la finale de la Ligue des Champions ou pour tout match de Ligue des Champions qu'ils oublient bien l'idée d'aller la faire jouer aux États-Unis, je comprends pour le pognon, mais la finale de la Coupe d'Europe elle se joue en Europe,
je suis d'accord.
Et que parfois un peu de
chauvinisme.
Je reste prêt à parier que dans les 5 ans, tu auras une finale de Ligue des Champions dans un stade US à 120 000 places.
Ah, mais bien sûr qu'ils vont le faire pour le pognon, ils sont prêts à tout. Hein, de toute façon, si les mecs qui dirigent.
Ils devraient faire une finale
européen,
de Conference League.
Non, mais.
Bodoglim.
Ils ont su nous vendre une Coupe du Monde dans 5 pays à la fois avec des matchs en Argentine au Brésil. Ils vont nous faire passer l'idée d'une finale de Ligue des Champions sur un territoire étranger. Mais ça reste. Ça reste du sport, c'est lié à un territoire, malgré ce que les gens en pensent. Les clubs américains, c'est autre chose. Les franchises, parce que déjà, les franchises, ce sont des franchises. Donc en fait, une franchise peut être dans une ville et bouger dans une autre.
Mais ça, c'est ce qu'on voit maintenant.
L'ancrage territorial est beaucoup moins là. Ouais, alors que les clubs européens, je suis désolé, ils ont une histoire, ils sont ancrés dans la ville, il y a une histoire, il y a de la politique. Je suis désolé, le Celtic et les Rangers, c'est lié à Glasgow. Hein, vous ne pouvez pas avoir les Celtics. Enfin, si vous avez les Celtics Boston.
Le Boston de Celtics.
Mais vous ne pouvez pas avoir les Celtics de Madrid. Ça ne marche pas.
Non, mais comme tu dis, aux États-Unis, les franchises sont liées à leur couleur. Et encore, on les change aussi. Et ce n'est pas lié, paradoxalement, à une ville ou à un État et à des supporters. Et on voit Oakland, par exemple. Oakland est en train de se faire pillé par Las Vegas. Donc maintenant, on a les Aces, les Athletics, donc c'est du baseball, qui sont délocalisés à Las Vegas pour 2025. Et on a Golden State Warriors qui a été délocalisé. Donc même des clubs qui ont énormément de succès dans leur sport, c'est du basket. 3-4 ans après la délocalisation, ils sont champions, ils écrasent tout et tout le monde.
Et puis souvent, ça s'est vu, je crois que ce sont les... Je vais dire une bêtise, alors j'ai les Bears, je ne sais plus. Il y a en tout cas une franchise de football américain où ils ont mis en balance ce qu'offrait une ville par rapport à ce qu'offrait l'autre ville. Et puis au bout du compte, il y a une des deux villes qui était plus désireuse d'avoir la franchise. Et on a déménagé tout le club. Et voilà comment un club a perdu sa franchise.
C'est politisé aussi de la ville. On sait comment ça fonctionne aux États-Unis. Le maire qui dit « moi, je vais ramener un grand club dans notre ville et vous allez vous amuser avec du sport ». Il est élu, il le fait.
Voilà, et je vous construis un stade où je donne les autorisations pour la construction.
Mais qu'ils oublient leur idée de Champions League aux États-Unis.
Thomas sera là pour s'y opposer.
On ira ensemble.
Tu m'invites.
Bon. Je t'invite pas parce que ça va coûter cher.
Allez, on ira. Enfin, merci pour cette minute Sportimize forte, intéressante. Ah, Allez, on va passer, on va rester justement, on avait abordé la possibilité infâme de jouer la finale de Ligue des Champions à l'étranger, enfin en dehors de l'Europe. On va parler Ligue des Champions, on va parler du grand barnum de la Ligue des Champions. On joue la cinquième journée des phases de groupe, on a déjà des clubs qui sont qualifiés, le Bayern, le Real, la Real Sociedad et l'Inter dans le même groupe, et City et Leipzig également dans le même groupe. On va commencer par le groupe F, celui du Paris Saint-Germain. C'est un groupe bien serré, on en parlait dès le tirage au sort, on disait que c'était le groupe de la mort, je ne sais pas si c'est de la mort ou pas, mais enfin en tout cas c'est un groupe où les quatre équipes se tenaient déjà. Avant de les voir sur le terrain, on se disait que le niveau était assez homogène. Le classement pour le moment, c'est le Borussia Dortmund qui est en tête avec 7 points, suivi du Paris Saint-Germain 6 points, l'AC Milan 5 et Newcastle 4. Demain soir au programme, le PSG reçoit Newcastle et l'AC Milan reçoit le Borussia Dortmund. Commençons par le Paris Saint-Germain. Thomas, on a vu le PSG très en difficulté à l'extérieur, en Coupe d'Europe, deux défaites. À Newcastle justement, où ils ont pris une sacrée volée, ils ont été submergés par la vague de St James Park, et une défaite à Milan aussi. À domicile, ça va mieux. Est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à une confirmation que le PSG est lancé dans cette Coupe d'Europe?
Le PSG, mais c'est traditionnellement, depuis que le PSG était racheté par le fonds d'investissement qatari, le PSG est très fort à domicile. Il a beaucoup plus de mal à l'extérieur. On l'a vu sur les deux premiers matchs. Contre Dortmund, Dortmund a été éteint, fait un très bon parcours après, Milan a été éteint. Par contre, les deux fois à l'extérieur, donc espérons que ça sera la même chose pour Newcastle, et en espérant que le club anglais qui se déplace à Paris, c'est plus compliqué, ils n'ont pas St James Park, ils sont obligés de gagner, et ça c'est une chose. Newcastle est peut-être dans une posture où ils doivent gagner, et donc on sait donner des espaces à Mbappé, Dembélé, voire Kolo Muani, parce que quand il y a plus d'espace, il sera peut-être plus à l'aise. Ça peut être très dangereux.
Il y a de l'espace dans le vestiaire, s'il veut.
Oui, c'est vrai, c'est sûr que Kolo Muani, pour l'instant, n'est pas...
Kolo moyen, oui.
Il est très moyen, oui.
Et face à cette équipe de Newcastle qui retrouvait la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, ils font un parcours, eux aussi, en dents de scie. Ils ont connu Il y a l'affaire de la suspension de
Tonali.
Ça va être, comme tu le dis, c'est la dernière chance pour les Magpies de pouvoir passer, quasiment la dernière chance, puisque, comme on le dit, les quatre équipes se tiennent en 3 points. Et l'autre match, c'est Milan contre le Borussia Dortmund. Le Milan, lui, a l'air d'avoir... Il avait mal débuté. Il a 5 points, tu me diras, et ils en ont pris 3 contre le PSG.
Skriniar voulait ramasser les papiers sur le but de Giroud, donc sur le sol. Donc évidemment, quand on offre des buts à l'adversaire, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Maintenant, après, avec un match nul, d'ailleurs, tout peut jouer demain. Hein. Demain, on peut avoir Dortmund et Paris qualifiés, comme on peut, tout peut jouer pour les 4 la dernière journée. C'était le groupe le plus indécis au tirage, ça l'est maintenant, pas de grande surprise, les équipes sont très proches. Je ne pense pas qu'on ait un vainqueur de Ligue des Champions dans ce groupe, par contre.
Non, sans doute pas. Niveau du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu penses actuellement du niveau?
C'est en dents de scie. C'est en dents de scie, mais mais au moins, on prend du plaisir. On allume la télé, on a du plaisir, on voit des choses, on voit des idées de jeu, ce qu'on ne voyait plus depuis 3-4 ans. Et donc, au moins, qu'il y ait l'incertitude, etc. Bon, ça nous fait plaisir, le match contre Monaco était sympa à regarder. C'est ça, on sait que probablement à moins d'un gros concours de circonstances, un peu à l'Inter qui se retrouve en finale, sur un malentendu ça peut
marcher. Voilà. Mais sauf que, et tu me le disais avant, il y a pour les clubs qui ne sont pas des clubs anglais ou espagnols, même si vous passez premier, il y a toujours le problème du tirage au sort qui fait que le tirage au sort étant pas intégral, vous pouvez moins avoir un parcours à l'Inter, enfin de type Inter, où vous passez un peu entre les gouttes.
C'est pour ça que je souhaite ardemment que Lens aille battre les Gunners à Londres, ce dont je doute, mais c'est toujours ça, le PSG se retrouve toujours seul, ce qui fait qu'il y a toujours ce tableau avec les probabilités, et puis bim, on tombe toujours sur le pire deuxième.
C'est ça.
Il y a eu le Bayern, il y a eu le Real, quand le Real finissait deuxième, vous finissez premier, vous prenez le Real.
Ouais, c'est autant.
Mais bon, ça, pareil, il faut dire à l'UEFA en 8e, c'est bon, on tirage intégral. Quoi.
C'est vrai. Non, on reste jusqu'au bout du bout.
Ouais, enfin, le PSG, si tu affirmes des ambitions de gagner cette Ligue des Champions, tu vas pas dire que c'est la faute des autres clubs français qui ne se qualifient pas, que tu n'arrives pas à choper ou
non,
à te qualifier.
Quand on voit le parcours, on voit certains parcours, par exemple, je crois que City l'année dernière, ok, ils sont très forts, ils l'ont gagné quoi qu'il arrive. Mais bon, avoir un huitième un peu plus tranquille, surtout quand tu es un club comme le PSG traumatisé par ce fameux huitième depuis quelques années, bon, ça te ferait pas de mal de prendre, avec tout le respect que j'ai pour eux, pour Porto ou un club de ce standing, ça te permettrait de reprendre de la confiance et d'arriver en quart de finale plus facilement.
Moi, j'ai l'impression qu'on s'avance trop vite. Il n'y aura peut-être même pas de huitième de finale.
Oui, ça tombe en Europa League, voire juste la Coupe de France.
Et pourquoi pas ?
C'est ça.
C'est tout à fait possible. Hein. Moi, je dis pas.
Et pourquoi pas gagner l'Europa League au lieu d'être éliminé avec des frustrations en huitième de finale de
Ligue des Champions ? Parce qu'on ne gagnera pas non plus l'Europa League.
Ouais. tu n'étais pas à Bruxelles lors de la Coupe des Coupes
Absolument. J'étais l'année d'après aussi au CUP.
C'est différent. Hein. La Coupe des Coupes est pour moi un peu plus comparable à la Conference League, on va dire. Tandis que ici, l'Europa League, c'est plus la Coupe de l'UEFA d'avant, qui avait quand même un certain standing.
La Coupe des Coupes, c'était autre chose à l'époque, parce que tu jouais les vainqueurs de Coupe.
Oui, et puis surtout.
Tu pouvais tomber contre des énormes clubs qui n'étaient pas qualifiés en C1. Mais si,
c'était rare.
Oui, mais quand il y avait qu'un seul qualifié, quand il y avait qu'un qualifié par pays C1, le deuxième.
Ici, c'est impossible. Les quatre premiers, ils jouent d'office.
Absolument.
Tu vas jouer, t'aurais joué Toulouse.
À part Liverpool, voilà.
Mais à l'époque, c'était. Ouais, c'est ça. Mais aller en Europa League, t'as Mbappé, c'est pour l'histoire, c'est pas non plus.
Bon, et ça leur permettrait de.
Moi, je préfère gagner l'Europa League que de me vautrer en 8e finale.
Je suis d'accord, moi aussi. On s'est tellement vautré que je suis tout à fait d'accord.
On serait capable de se vautrer contre Bodo Glimt en conférence.
Mais juste le groupe A, le Bayern est qualifié, derrière c'est très serré, Copenhague, Galatasaray 4 points, Man United 3, Man United a gagné ce week-end 0-3, performance hyper impressionnante contre Everton l'avant-dernier de Première Ligue, donc c'était pas terrible. Manchester United se déplace à Galatasaray, c'est la dernière chance pour eux sans doute de pouvoir accéder au 8e de finale, surtout qu'ils finissent certes à domicile mais face au Bayern. Vous pensez que cette victoire 0-3 avec ce magnifique but de Garnacho qui a mis un but à la Wayne Rooney, retourné magnifique, va permettre à United de redécoller ou la saison est définitivement pourrie pour eux?
Leur prestation à Copenhague,
ouais.
Ils se tuent et se sabotent eux-mêmes.
Le foot, ça va vite. Manchester, je crois que c'est encore une des plus grosses marques du football mondial. Je crois que c'est la deuxième, voire la première. Je crois que c'est un kiff avec le Real.
Mais le Real et le Barça ont quand même des longueurs d'avance, que ce soit en réseaux sociaux, en merchandising, en volume d'argent généré pour ça aussi.
Mais
Manchester fait partie du top 5 dans tout.
Ce qui est incroyable malgré tout, c'est qu'on parle de Manchester qui a fait une saison pourrie. Ils sont 6e et donc 6 points de retard sur Arsenal et 5 sur City.
Manchester, c'était l'équipe qui terrorisait le football anglais. On jouait Manchester, les autres tremblaient.
C'est générationnel, Thomas. C'est générationnel. Parce que quand on va parler de Saint-Etienne au père de Sam, pour lui, Saint-Etienne, c'est une des meilleures équipes de France. Et là, ils sont, je ne sais pas où, en Ligue 2.
Ouais, mais ils ont encore beaucoup d'argent. Je veux dire, Saint-Etienne, il n'y a plus de pognon. Ils ont beaucoup d'argent. Ils font n'importe quoi que l'argent.
C'est comme Bruges. Mais attends, je te signale, Bâle, tous ceux de la génération qui ont 20 ans aujourd'hui, pour eux, Bâle, c'est une grosse équipe suisse. Ils sont derniers du classement.
Ouais.
Pour mon fils, l'Allemagne, c'est pas une grande sélection.
Mais voilà, parce que l'Allemagne a des mauvais résultats.
Il est né en 2012,
Pour moi, moi, par exemple, ma génération, l'Espagne, on regarde ça comme un pays de seconde zone en Europe qui ne va jamais rien gagner.
Ils connaissent rien.
Parce que Coupe du Monde 94, ils passent à côté. Euro 96, c'est dramatique. Coupe du Monde 98, c'est la bérésina complète.
Ouais.
En 2000, merci de nouveau.
Qu'est-ce qui a mis une tape sur les poils? Ils avaient pris une tôle complète en 98, l'Espagne.
Ils avaient battu la Bulgarie, mais ils se sont inclinés contre le Nigeria et une autre équipe fort sympathique dans ce groupe qui m'échappe, je pense, le Paraguay.
Paraguay, absolument.
Et pour moi, donc, l'Espagne, donc, ce genre de truc, c'est générationnel. Ceux qui ont aujourd'hui 8 ans, comme le fils de Steve qui nous écoute, pour lui, l'Union sera une des meilleures équipes au monde une fois que les Anglais seront barrés, qui seront de retour en Division 2.
Allez, le dernier mot, tu parlais d'Arsenal, on va devoir terminer. Le groupe B, Arsenal, se déplace au PSV Eindhoven et Lens Le Racing Club de Lens reçoit Séville. Les Lensois ont il faut qu'ils forcent leur destin et que le Stade Bollaert
peuvent le faire. Hein, ils ont battu Arsenal, ils ont fait un bon match.
Ils vont ressortir la pancarte de Jean-Claude Duss.
Au tirage, personne ne les attendait là et ils sont en passe de se qualifier pour Lens. Pour le coup, moi je serais content qu'ils aillent en 8e.
Et ben moi aussi.
On a vu Bruges l'année passée faire les mêmes résultats dramatiques en Belgique, mais ils se surpassaient en Ligue des Champions. Et pour beaucoup de joueurs à Lens, ils ont ce drive incroyable. Ils ont quand même été chercher un bon point à Séville, si je ne me trompe pas. À domicile, tout est possible.
Tout est possible avec la ferveur de Bollaert. Merci à toi Thomas, merci à toi Alex, merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, très bonne semaine.
Salut. Au revoir.